Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Anne.
Et bonjour à nos auditeurs. Oui, je suis derrière le micro jaune.
Eh oui. Le et jaune. Tu viens nous présenter les films de la semaine.
Je voulais que tu dises la couleur, c'est pour ça. Oui, je viens parler des films qui sortent là, voilà. Et puis, bon, bah, on va commencer. Oh, on va commencer par une comédie française. C'est très chouette, vraiment.
C'est le genre de film qui fait du bien.
Oui, tout à fait. Le titre est terrible parce que moi, j'ai un petit chien. Mon chien stupide, ça s'appelle. Non, c'est pas pour le mien, il me regarde, il va dire ça y est, elle me trouve stupide. Non, c'est le titre du film, Mon chien stupide. C'est un film d'Ivan Attal. Oh, ben, on le connaît bien, d'Ivan Attal. On le connaît bien. Pourquoi j'ai dit d'Ivan ? Non, c'est pas un d'Ivan, c'est Ivan. On le connaît bien, Ivan Attal. Voilà, je recommence. Acteur, réalisateur, scénariste français. Il a eu déjà 3 prix, il a eu 13 nominations déjà, plus une nomination pour Mon chien stupide au Festival du film francophone d'Angoulême 2019 en film d'ouverture. Il a 54 ans, donc il va pouvoir faire encore de jolies choses. Pour citer ce qu'il a fait, il y a Ma femme est une actrice, par exemple. Il a aussi réalisé Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et rien que dans le film, le chien vaut le détour quand même, hein. Franchement. Bon, alors c'est quoi ? C'est l'histoire d'Henri qui est en pleine crise de la cinquantaine. Il est responsable de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos. Point d'interrogation, sa femme et ses 4 enfants, évidemment. Point d'exclamation. À l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison pour son plus grand bonheur, mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme, dont l'amour indéfectible commence à se fissurer. Amour indéfectible, c'est beau ça. Et oui, mais quand on sait que c'est Charlotte Gainsbourg, en fait, qui fait son épouse, on se dit, oh, ça va bien marcher, parce qu'il y a Ivan Attal dans le film. Il y a donc Charlotte, il y a Pascal Arbillot, grande comédienne, il y a Eric Ruff, il y a Ben Attal, Sébastien Thierry dans les rôles principaux. C'est un joli casting aussi, oui, franchement. Et puis, j'avais noté ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le chien vaut le détour. Ah ouais, rien que pour lui, il faut aller voir le film. Oh, je suis persuadée que Damien nous a mis une petite bande-annonce.
Je l'ai. Merci. Et on l'écoute.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer.
Je garde stupide.
Pardon ?
C'est son nom et ici sa maison.
C'est incroyable quand même. Sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui. Et puis d'un seul coup, c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul?
Mon chien stupide, donc.
Qu'est-ce que tu penses du chien qu'on voit sur...
Ah ben, il est impressionnant, quoi. C'est quoi, c'est un matin de Naples ou quelque chose comme ça? Mais c'est un très, très gros chien, quoi.
C'est quelque chose. Mais il vaut le détour, quoi.
C'est ça.
Ah oui, c'est... il faut avoir un divan solide. Hein. Il faut quand même avoir des... Il faut des ressorts solides, là. Et s'il dort sur le lit, pareil. Hein. Il faut du solide, du costaud. Et voilà, donc c'est... Bon, bah écoutez, hein, mes chers, si vous voulez vous détendre, franchement, mon chien stupide, je crois que ce serait excellent pour vous. En tout cas, est-ce que j'ai dit 1h30, hein, je crois, oui. En tout cas, voilà. Eh bien, bon, bah, pour se reprendre hein, en main, on va parler d'un drame français. Un monde plus grand. C'est le titre, c'est de Fabienne Berthaud. C'est une actrice, réalisatrice, scénariste française. 53 ans, elle a 2 prix et 12 nominations déjà, cette cinéaste. Alors c'est quoi ? Ben, c'est parti en Mongolie, chez des éleveurs de rennes, pour enregistrer des chants traditionnels. Corinne pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s'impose désormais à elle. Elle doit repartir pour commencer son initiation et découvrir un monde plus grand. C'est Cécile de France hein, qui joue Corinne, qui est formidable. C'est une grande comédienne, Cécile de France. Pareil, quoi, le casting est très beau. Il y a Ludivine Sagné, il y a Arié Vorthalter aussi. C'est un acteur franco-belge, lui, Arié Vorthalter. Et alors, il y a une actrice mongole, c'est la seule du film d'ailleurs, qui fait Oyun. Et alors là, pour citer son nom, alors attention Damien, on ne sourit pas, parce que je vais essayer de donner le nom de cette actrice mongole. Tseren Darizav, ça c'est son prénom. Et Dachniam, ça c'est son nom. C'est elle l'actrice, la seule actrice mongole du film. Ça c'est quand même un événement, parce qu'on ne connaît pas bien nous le cinéma mongol quand même, ni les acteurs d'ailleurs. Et là on en a une qui est formidable d'ailleurs. Voilà, ça dure 1h40. Et c'est un... En fait c'est adapté d'un livre. Hein. Le livre c'est « Mon initiation chez les chamans ». C'est Corinne Sombrin qui l'a publié. D'ailleurs, elle a été consultante pour le scénario. Elle a été conseillère technique aussi sur les scènes de transe pour ce film-là, Corinne Sombrin. Alors, en fait, Fabienne Berthaud nous dit « Il m'a fallu trouver le juste milieu entre une certaine liberté d'adaptation qui me permettait de faire un film romanesque tout en respectant la vie, enfin le livre pardon, de Corinne Sombrin ». Elle a été très présente pendant toute la fabrication du film. Hein, c'est ce que je disais. Donc, en fait, chacun, dans cette histoire, elle est universelle, elle nous dit, Fabienne Berthaud. Chacun d'entre nous peut s'identifier. Elle interroge nos peurs, ce que l'on ne comprend pas et ce que l'on ne maîtrise pas, entre visible et invisible, rationnel et irrationnel, entre science et chamanisme. Mais avant tout, c'est une grande histoire d'amour. Voilà comment elle définit son film. Alors, un monde plus grand a été tourné dans la steppe mongole, hein, dans une région inaccessible où il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni réseau Internet. Elle nous explique d'ailleurs, nous vivions, comme les Mongols, de façon très écologique, dans un camp de yourtes organisé pour l'équipe et on se chauffait avec des poêles à bois. Et oui, en venant tourner en Mongolie, l'équipe devait en accepter les traditions, les croyances et les coutumes. La notion de temporalité est très différente de la nôtre. Quand vous demandez à un Mongol s'il reste encore un peu de... S'il reste encore du temps pour... Il répond, vous verrez. C'est, voilà, ils n'ont pas du tout la même... Il ne doit pas y avoir de montre hein, et de réveil et tout ça. Il y a déjà pour Internet. Donc, en fait, elle se souvient, Fabienne Berthaud, la réalisatrice, d'un petit imprévu qui est survenu 15 jours avant le début du tournage. Alors, les éleveurs de rennes, on les appelle là-bas les Tsatans, hein, devaient descendre des hauts plateaux pour nous rejoindre. Nous devions installer leur camp, le décor principal, en fait. Ils devaient venir avec une partie de leur famille et quelques rennes. Les autres resteraient sur les hauts plateaux. 3 jours avant le début du tournage, excusez-moi, ils n'étaient toujours pas là. Et nous n'avions aucun moyen de les joindre, évidemment, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Sans eux, le film n'existait pas. Il fallait alors tout repenser. Et puis un matin, ils sont arrivés. La tribu tout entière est venue avec 200 rennes et 40 nouveaux-nés. C'était magnifique. Il faut savoir attendre le bon moment et tout se fait. Voilà ce qu'elle nous dit. C'est chouette ça quand même, c'est une belle image. Ça donne une idée quand même, 200 rennes et 40 nouveaux-nés qui arrivent comme ça d'un coup sur un tournage. C'est magnifique, c'est magique. Hein. Voilà. Donc là, en fait, la seule véritable actrice mongole du film, dont en fait est arrivée comme ça. Fabienne Berthaud lui a fait passer des essais dans l'arrière-salle d'un restaurant d'ailleurs. Elle était inquiète à l'idée de jouer une chamane. Ce n'est pas anodin pour les Mongols. Hein, c'est une sacrée responsabilité. Elle a dû demander la permission aux esprits avant d'accepter ma proposition et vérifier que j'abordais le sujet avec respect. Que je n'allais pas raconter n'importe quoi. C'est vraiment... Alors, l'interprète qu'ils avaient, là, qui s'appelle Nara, elle est la véritable interprète qui a accompagné, d'ailleurs, Corinne Sombrin, l'écrivain, là, 18 ans auparavant. Donc, le rôle était pour elle, quoi. C'était vraiment une évidence. Voilà. Donc, elle a joué son propre rôle, une réalité dans une autre réalité. Voilà ce dont se souvient la cinéaste. Oui, c'est beau. Ce film est à voir, hein, vraiment quoi. Bon, j'ai pas l'habitude de trop insister parce que bon, mais là vraiment, ce serait dommage de le rater. Un monde plus grand.
Et on va voyager un peu avec la bande-annonce.
C'est vrai. Merci, Damien.
Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde ? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale.
Ça va te faire du bien ce voyage.
Mira, il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici.
Les chamans peuvent communiquer avec les morts.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il pense que j'ai des pouvoirs.
Des pouvoirs magiques?
Tu dois maintenant apprendre à t'en servir.
Je sais pas ce que vous me racontez. Fais flipper cette bonne femme.
Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non?
T'as pas le choix. C'est ton destin.
Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter par un médecin?
Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas?
Et c'était Paul qui m'appelait.
Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas?
En Mongolie pour faire avancer la science.
Ça dérange qui?
Moi, ça me dérange.
Tes pouvoirs grandissent.
T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte.
J'essaie juste d'aller mieux, Louise. Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Pas un peu de ma gueule, votre grand-mère?
Ah, juste avant de mourir,
on s'est juré qu'on se reverrait.
Voilà le film de Fabienne Thibault, donc oui. Un monde plus grand.
Mais si vous voulez découvrir le peuple des rennes, le peuple, ces nomades qui vivent dans des tipis, ben le film est pour vous. Hein. Absolument. C'est assez magnifique. C'est pas le genre de film qu'on voit souvent quand même. Hein. C'est quand même quelque chose. Alors, ensuite, j'ai une comédie dramatique française, Debout sur la montagne. Alors, Debout sur la montagne, c'est de Sébastien Bête-Bédé. C'est un acteur, réalisateur, scénariste français. Il a 44 ans, il a déjà eu un prix, il a eu une vingtaine de nominations dans sa carrière. Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus des adultes, un peu abîmés par la vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance. Ces retrouvailles permettront-elles de renouer avec la fantaisie, l'insouciance et la joie de leurs premières années? Et oui, c'est un joli film aussi, ça. C'est... Alors, dans les rôles principaux, c'est pareil, il y a un joli casting. William Lebgill, on a Isia Higelin. Isia Higelin, c'est la fille de Jacques Higelin, hein, voilà, qui est partie, qui nous a quittés en 2018 d'ailleurs. Elle compose, elle crée, elle interprète, elle fait aussi du cinéma. Et elle est la sœur d'Arthur H., également, qui est un fils, le fils de Jacques Higelin, qui est musicien-chanteur. Donc elle est dans ce film, elle est rayonnante, hein, Isia Higelin. On a Bastien Bouillon également, très bon comédien. Jérémy El-Kaïm, Esteban, on a André Wilms. Bon, ouais, c'est ce que je disais, joli casting. Et c'est un joli film également. Ça dure 1h45, peut-être ça pourrait être le nôtre. Hein. Oui, est-ce que Damien, est-ce que... Oh oui, tu as une bande-annonce, j'en suis sûre.
Je l'ai.
Merci.
Content de te revoir.
Tu me trouves changé?
Alors un peu, ouais. Ça fait 14 ans, c'est ça?
C'est assez étrange de revenir ici. T'es prof à Bordeaux, il paraît?
Je viens de donner ma démission. J'ai envie de faire des trucs que j'aime.
C'est-à-dire?
Du stand-up. À vrai dire, je le détestais à l'époque. Il se tapait toutes les filles les moins moches du lycée pendant que moi, je me masturbais devant les trois Suisses. Et oui, mes parents n'ont jamais reçu la redoute.
C'est oui.
Ça, j'avais noté que je devais le changer.
Il est mort de quoi, Pierre, exactement?
Il était malade depuis toujours.
Qu'est-ce qui te fait rester au village, Bérénice?
Je sais pas vraiment. Je crois que la dernière fois que j'ai éprouvé de la joie, une véritable joie, c'était quand on était enfant.
Bérénice!
On n'était pas très proches, nous non plus, non?
Non, on s'aimait pas trop.
Je me demande ce qu'on serait devenu si on était restés ici, nous aussi. On serait certainement restés amis, non?
J'ai quelques petits soucis. Il me laisse que 3 jours pour revenir.
Pour essayer de rattraper le temps perdu.
Pour vous dire la vérité, monsieur l'agent, on est en mission spéciale.
Et quel genre de mission spéciale?
On travaille pour le CRNS. Oh, le CRS. Le CNRS. C'est qui?
C'est mes amis. Mes amis d'enfance.
Debout sur la montagne, donc, de Sébastien Betbédé.
Oui, c'est joli, hein, c'est un joli film. C'est un petit coup de cœur quand même aussi. Mais je crois que Isia Higelin vient de sortir un album aussi.
Isia Higelin, oui, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit. Très très bon album.
Isia Higelin, ouais.
Qu'on écoute fréquemment dans la matinale.
Oui, je crois, hein, c'est pas mal ce qu'elle fait. Hein. Oui, oui, oui. Eh ben écoute, papa, le frère, Rosa, ben oui, il y avait du talent, il y a du talent dans la famille. Du talent musical, mais elle est très bien aussi comme comédienne, hein, justement. Alors ensuite, j'avais mis de côté un biopic, drame. C'est italien, français, allemand et brésilien. Oui, ils s'y sont tous mis. Ça s'appelle Le Traître. Il y a un avertissement quand même. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est important de le noter. Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, on a entendu parler de celui-là, ouais. Membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne, puis extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia, rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. C'est une histoire terrible, hein, tout ça. Donc, c'est un film de Marco Bellocchio. Alors, Marco Bellocchio, on le connaît. C'est un cinéaste qui est très connu. réalisateur, scénariste. Bon, il est italien, il a 79 ans. Il a déjà eu quand même 2-3 prix, 85 nominations. Et, et son film Le Traître a 12 nominations au Festival de Cannes. Celui-là aussi a raté de peu un prix, en fait. Cannes 2019, on avait cité hein, ce titre quand on a parlé du Festival de Cannes, ici, à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. Donc, c'est... Marco Bellocchio, il y a un film dont on se souvient de lui, qui était sorti en 2009, qui s'appelait Vincere. Vincere, ça veut dire gagner, en fait. Hein. C'était c'était l'histoire de l'enfant caché, reconnu, puis désavoué de Mussolini et d'Alser, la maîtresse. Donc ce film avait fait du bruit aussi. Alors dans les rôles principaux, on a Pier Francesco Favino, c'est Tommaso Buscetta. Ensuite, on a Maria Fernanda Candido, qui est son épouse dans le film. On a Fabrizio Ferracane et Luigi Locaccio. Dans les rôles principaux. Donc, c'est en fait le Tommaso Buscetta, là, c'était quand même un personnage assez fascinant qui a marqué l'histoire de la lutte contre la mafia. C'était un jeune gars d'une famille de 17 enfants qui s'est marié jeune et puis qui a commencé sa carrière quand même dans le crime en 1945. Donc, très jeune, hein, à 24 ans, il a commencé déjà, voilà. Et il s'est montré très compétent, ce qui fait qu'il est monté en grade, si j'ose dire, hein, parce que ça, c'est ça aussi, hein, dans ce milieu du crime. C'est quand même... en fait, le traître, le film, c'est davantage l'histoire de Buscetta que celle de Cosa Nostra, hein, c'est plus son histoire à lui. On dit que c'est un individu versatile, constamment en mouvement dans sa vie, sa relation personnelle. Il est singulier, intelligent, charmant, efficace et doté d'une autorité naturelle. C'était un mafieux fidèle à Cosa Nostra, mais aussi à ses principes personnels. Donc il contestait l'autorité à laquelle, par ailleurs, il refusait de prendre part. Donc il doit faire, en fait, au début des années 80, il doit faire face à la montée en puissance des Corleone, dirigés par l'intraitable Toto Riina. Et c'est un groupuscule impitoyable qui arrive là, et qui bafoue les principes fondamentaux de Cosa Nostra. C'est-à-dire qu'ils tuent les femmes, les enfants, enfin ils éliminent tout obstacle sur le passage, quoi. Donc il ne trouve plus sa place à partir de 1980. Donc, il s'installe donc à Rio de Janeiro en 1982 avec ses enfants et sa femme, qu'il aime. Eh oui. Il a pour but de cesser toute activité pour la mafia. Mais on ne quitte jamais la mafia et l'organisation le traque sans cesse. Et puis, il y a la police brésilienne donc qui devance en fait, l'organisation qui traque, qui l'arrête et qui le fait extrader vers l'Italie. Il a proposé un accord à la justice italienne, parler, collaborer à démanteler la mafia en échange de sa protection et de sa survie. Et il a rencontré le juge Giovanni Falcone, imposant, inflexible et tenace, en plonge alors dans les profondeurs de l'organisation sicilienne. Les meurtres, les fusillades, les coups montés, c'est la toile de fond de l'histoire racontée par Buscetta, qui se révèle être le plus grand mystère de Cosa Nostra. Nul ne sait ce qui l'a poussé à collaborer, en fait. La survie, la sécurité, bon, évidemment, mais il semble animé par d'autres desseins, la vengeance et la volonté de démanteler une mafia qui ne correspond plus à ses valeurs. Buscetta franchit une étape décisive. Il devient un traître en passant dans le camp ennemi. Mais lui, il se considère absolument pas comme tel, hein. Et au fur et à mesure de ses confessions, il va mettre en exergue le fossé qui s'est creusé entre sa mafia et celle des Corleone. Donc il veut rendre justice à la vraie Cosa Nostra. Alors pour lui, le traître ultime de l'histoire, c'est Toto Riina, évidemment. La trahison, en fait, c'est un thème récurrent et inlassablement exploré au cinéma. Justement parce qu'il propose une réflexion sur le changement. Un homme, au cours de sa vie, peut-il réellement et profondément changer ou n'est-ce qu'un simulacre ? Le changement est-il un moyen de guérir de son, et de se, repentir quoi. Buccetta, qui refusa toute sa vie l'appellation de repenti, s'est-il inscrit dans cette démarche de guérison, de rédemption, afin de devenir un homme nouveau ? Ou a-t-il créé sa propre justice ? Plein de questions, en fait, dont on n'aura jamais la réponse. Donc, c'est un film sur lui. Si vous êtes passionné par ces histoires de la Cosa Nostra, par les Corleonais, le groupe impitoyable qui est arrivé juste après Buccetta et qui a fait des sacrés ravages quand même, parce qu'il tuait tout le monde. Hein. Femmes et enfants, enfin tout le monde. Quoi. Il n'y avait plus aucun honneur, aucun... Voilà. Eh bien, ce film est pour vous. Le Traître, il est bien fait, évidemment, parce que c'est un grand metteur en scène, un grand réalisateur qui est là... qu'elle a réalisé. Voilà pourquoi je voulais en dire quelques mots. Et puis, mais j'ai un drame aussi. Alors, letton, belge, lituanien et français. Ça s'appelle Oleg. Oleg, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler contre un salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais avant de tomber sous son emprise mafieuse. Décidément, on ne sort plus.
On reste dans le thème.
On reste dans le thème mafieux. Ben oui, parce que c'est un thème immense et qui est effectivement très repris au cinéma constamment. C'est un film de Gyuris Kurcieti, qui est un réalisateur scénariste letton de 36 ans. Il est, en fait, à 20 ans, il était correspondant à l'étranger pour la télévision lettonne, Gyuris Kurcieti. Donc, il a commencé très tôt. Il a déjà eu 3 nominations. Et là, il a 4 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2019, hein, qui se tient en même temps que le Festival de Cannes. On en avait parlé, hein, de cette quinzaine de réalisateurs. Donc, Oleg, Oleg a plu. Ça a été quand même récompensé par 4 nominations. Dans les rôles principaux, on a Valentin Novopolski, qui joue Oleg, qui est un acteur russe. Et on a Anna Prochniak et David Ogrodnik, qui lui est un acteur polonais. Anna Prochniak, c'est une actrice russe. Donc c'est... Voilà. Oleg, en fait, ça s'inspire d'une histoire vraie. En 2013, alors que le réalisateur tournait son premier film, un ami journaliste lui a parlé d'un article qu'il écrivait sur les étrangers qui venaient travailler en Europe de l'Ouest. Le metteur en scène se souvient, son enquête s'appuyait sur la vie de l'un d'entre eux. Donc mon film s'inspire donc d'une histoire vraie. Cet ami qui a finalement co-scénarisé Oleg m'a fait lire tout l'entretien mené avec cet homme. Il a constitué la clé de voûte du film, les principaux éléments de mon histoire, les moments où elle bascule viennent de ce récit de vie. Seulement 20 à 30% d'éléments dramatiques relèvent de la pure fiction. L'histoire vraie sur laquelle se base mon film s'est passée en Belgique, à Bruxelles, qui apparaît comme une capitale européenne idéale et multiculturelle. Cette histoire m'a captivée aussi pour ces raisons-là. Voilà ce que nous dit le réalisateur. Pourquoi la Belgique, en fait ? Lorsqu'on parle de travailleurs exploités originaires des pays de l'Est, la Belgique ne vient pas immédiatement à l'esprit. Mais à mesure que le réalisateur se documentait sur son sujet, cette destination s'est imposée. Il nous précise, en janvier 2015, nous sommes partis en repérage avec mon chef opérateur. Avant notre départ, j'avais essayé de cibler des ouvriers de l'Est qui travaillaient dans des usines sur place. On m'a répondu que je n'en trouverais pas en Belgique, que cela concernait plutôt l'Irlande ou la Grande-Bretagne. Nous sommes donc partis sans aucun contact. Là-bas, j'ai voulu voir à quoi ressemblaient les usines de viande pour nourrir l'écriture du film. Nous y avons rencontré tout à fait par hasard une dizaine d'ouvriers lettons. L'histoire était bien là, elle se tenait simplement à l'abri des regards. Le rôle-titre, le réalisateur voulait initialement un acteur russe pour faire écho à la situation des non-citoyens en Lettonie qui ne possèdent ni la nationalité russe ni la nationalité lettonne et qui sont stigmatisés. Oleg est ainsi doublement isolé en Belgique. Le réalisateur nous dit « Pour trouver notre acteur principal, nous avons fait des castings en Russie et en Ukraine. Je donnais deux saine à jouer aux acteurs. Et quand j'ai vu la prestation de Valentin Novopolski, il m'a vraiment captivée. Sans que je n'aie eu vraiment à le diriger, il m'a montré sa vision du personnage. Son personnage suscite l'empathie, mais si ses actions paraissent illogiques, le spectateur a envie de le suivre. Et c'était aussi mon cas. Voilà. En fait, c'est un beau film. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, Oleg. C'est un très beau film. Ça dure 1h48. C'est un drame hein, quand même. Hein. C'est pas drôle, mais c'est un beau film, voilà. C'est vrai que l'acteur principal a l'air assez inouï, en réalité. Ouais, c'est son premier rôle. Pas mal. Ensuite, j'avais un thriller fantastique, américain. Ça s'appelle Stephen King's Doctor Sleep. C'est un nouveau chapitre de Shining. Si on se souvient, oui, voilà, on se souvient de Shining. Shining, c'est sorti en octobre 1980. C'est un film de Stanley Kubrick, qui est un Américain qui est décédé d'ailleurs en 1999 à l'âge de 70 ans. Il est mort jeune. Hein. Le rôle principal était tenu par Jack Nicholson. Et il a été restauré, au fait. Hein. C'est pour ça que j'en avais reparlé dans la restauration. Il a été restauré en mai 2019, le film. C'est Jack Nicholson qui fait Jack Torrance, c'est-à-dire le héros, si on peut dire, de Shining. Donc ça, c'est un nouveau chapitre de Shining, encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant à l'Overlook Hotel. Dan Storen, c'est le petit garçon qu'on voit, enfin qui est devenu un adulte et qu'on voit dans le film Shining, le petit garçon sur son vélo là, qui fait le tour dans la cuisine, qui essaie de fuir en fait et qui se cache après. Dans les placards sous la cuisinière là, mais c'est lui. Donc là, il revient là. Il est marqué par le traumatisme qu'il a vécu donc enfant. Et Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons ressurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide. Elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Clack et sa tribu du nœud vrai qui se nourrissent de dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Dan n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé. J'ai bien dit, hein, thriller fantastique américain. Ça dure 2h32. Oui, des pop-corn peut-être aussi. Hein. C'est réalisé par Mike Flanagan, qui est un réalisateur, scénariste, monteur américain. Il a 41 ans. Il a déjà eu des nominations, lui. Donc, cette année, le Shining est de retour. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur la bande-annonce, que je suppose que Damien a mis de côté.
On va voir, je ne sais pas ce que ça va donner.
Je ne sais pas ce que ça va donner. Docteur Sleep. Peut-être pas grand-chose. Si, ça fait sursauter quand même, si, éventuellement. Ça, voilà.
Il faut que je parle à la petite.
T'as des pouvoirs magiques, comme moi.
Écoute-moi. Le monde est féroce, sinistre.
Salut, toi.
Je n'ai rencontré que deux ou trois personnes comme nous. Elles sont mortes. si je tombais sur ces trucs comme ça? Je ne sais pas si c'est de la magie. J'appelle ça le Shining.
Doctor Sleep, donc, ouais, le son est très important dans ce genre de film.
Ah ouais, tout à fait, oui, c'est terrible même. Alors, dans les acteurs, ben, on a Evan, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Evan McGregor, mais on le connaît, Evan McGregor quand même. C'est lui qui fait Dan Torrance. On a Killig Curran, on a Rebecca Ferguson, c'est Rose Clack, la méchante, Cliff Curtis, dans les rôles principaux. Alors, le petit acteur, le petit gars qui jouait dans Shining, qui s'appelait Danny Lloyd, d'ailleurs, l'acteur, il a 47 ans aujourd'hui. Et on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a déclaré avoir été surpris, en particulier concernant les plans du trailer où l'on voit Danny Torrance souvent de dos dans l'hôtel Overlook. Voilà, il nous dit, ça a l'air vraiment bon. J'étais curieux parce qu'il y avait un équilibre à trouver entre Stephen King et Stanley Kubrick. Il semble qu'ils ont trouvé le moyen de rendre hommage aux deux. Voilà. Donc actuellement, Danny Lloyd, là, le petit garçon qui est devenu donc un adulte de 47 ans, enseigne la biologie dans l'État du Kentucky. Eh oui. Donc à la maman. Donc en fait, le réalisateur Mike Flanagan, là, c'est un spécialiste hein, de l'épouvante horreur, lui. Ah oui, c'est un grand connaisseur de l'œuvre de Stephen King. D'ailleurs, il avait déjà mis en scène une adaptation du Maître de l'horreur avec Jesse en 2017. Il a toujours été un fan, quoi. C'est un fan pur et dur de Stephen King, mais depuis gosse, hein, d'ailleurs. Il dit « Je me sens responsable de protéger l'œuvre de King, ce que d'autres ne font pas toujours. » On voit bien parfois comment certaines adaptations de ses romans sont totalement ratées. Quant à Stanley Kubrick, il est ma plus grande inspiration cinématographique. J'ai donc eu une chance inouïe de mettre en scène Doctor Sleep. Oui, il y en a qui sont ratés. Je crois d'ailleurs que Stephen King n'est pas toujours satisfait, effectivement. Shani, alors le roman original a été publié en 1977. Oui. Et l'idée d'en écrire une est venue à Stephen King 10 ans plus tard, alors qu'il signe ses livres dans une librairie. Un fan lui demande ce qu'est devenu Danny Torrance. Cette question interpelle l'écrivain qui commence à réfléchir et à donner une suite à son roman culte. Ce sera Doctor Sleep qui verra le jour en 2013. Et oui! Alors, il y avait Evan McGregor, bon donc, mais il y avait d'autres acteurs hein, qui voulaient le rôle. Il y a eu Jeremy Renner, Matt Smith, Chris Evans, on le connaît lui, Dan Stevens, hein, ils ont tous rencontré le réalisateur. Et en fait, c'est Evan McGregor qui a été choisi avec la bénédiction de Stephen King himself. Et oui, c'était important quand même. Hein. Donc, au début du film, comme dans le livre d'ailleurs, on fait la connaissance d'un Dan Torrance, qui est totalement désemparé, en proie à l'alcool, et qui a totalement mis de côté ses dons, parce qu'il a des dons. On l'apprend dans le premier film, ça, que le petit garçon a des dons, justement. On le sait dans le premier film, dans Shining. La raison pour laquelle on l'appelle Dr. Sleep vient de son rôle de médecin accompagnant les personnes âgées d'un hospice où il travaille au moment où elles vont mourir. Il utilise un soupçon de ses capacités pour calmer les malades sur le point de passer dans l'au-delà, de tomber dans le sommeil infini. C'est d'ailleurs fabuleux, dit-il, que Stephen King ait réussi à garder le surnom de Doc pour Danny, qui avait déjà cette étiquette, tout jeune, car il adorait regarder les dessins animés de Bugs Bunny. On se souvient de la tirade du lapin de Warner Bros. « What's up, Doc ? Quoi de neuf, docteur ?» Eh oui, explique Mike Flanagan, il nous dit, voilà, pourquoi ça s'appelle Docteur Sleep ? C'est-à-dire dormir, hein, le sommeil, hein, Sleep. Eh oui. Alors, il fallait convaincre Stephen King. Alors là, il a dû batailler un petit peu, hein, Mike Flanagan, avec Stephen King, pour le convaincre que Docteur Sleep devait être une suite du Shining de Kubrick, qui est quand même un film très connu du grand public. Alors, l'auteur, lui, il a toujours détesté la version du cinéaste. Eh oui. Il avait produit sa propre adaptation en 1997. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Bon. Ça n'a pas empêché Flanagan de mélanger des éléments du livre pour les inclure dans cette suite, mélangeant les univers de King et de Kubrick, tout en y ajoutant sa patte. Voilà. Donc ça doit faire quelque chose de pas mal du tout. En tout cas, pour les grands fans, les admirateurs de Stephen King et ceux qui ont beaucoup aimé Shining, je pense qu'il faut aller voir ce thriller fantastique. Eh oui! Hein ? Bon, bah, voilà, c'est du cinéma quand même, hein, mes chéris, faut pas non plus. Voilà, c'est pas. C'est du cinéma. Faut pas perdre ça de vue. On le dit, hein, quand il y a une moitié cinéma, une moitié réalité, bon, voilà, réalité-fiction. Mais là, non, c'est vraiment du cinéma. Il n'y a pas de réalité là-dedans. Dieu merci, Stephen King ne fait pas dans la réalité. Heureusement, parce qu'il a quand même des histoires terribles. Non, c'est. C'est vraiment du cinéma. Ah, je voulais parler d'un documentaire français-chilien, La Cordillère des Songes. Oui, on a envie de dire La Cordillère des Andes. Eh ben non, La Cordillère des Songes. Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d'atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout, mais pas pour les Chiliens. C'est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le Bouton de Nacre, Patricio Guzman, le réalisateur, nous dit « J'ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères révélateurs, puissants, de l'histoire passée et récente du Chili. » Patricio Guzman, c'est un réalisateur scénariste chilien. Il a 78 ans, il a déjà eu 3 prix. Ça lui fait 2 prix déjà, 16 nominations, plus un prix au Festival de Cannes 2019. Il a l'œil d'or, il a reçu l'œil d'or de la Société civile des auteurs multimédia. C'est un beau prix, ça, c'est un joli prix. Alors, le documentaire, Le Bouton de Nacre qu'il avait réalisé en 2015 avait remporté l'Ours d'argent à Berlin. Et il avait 9 nominations déjà, Le Bouton de Nacre, puisqu'il en parle, hein, dans la Cordillère des Songes. C'est l'histoire sur l'eau, le cosmos et nous. Voilà, la Cordillère des Songes. Elle part de 2 mystérieux boutons découverts au fond de l'océan Pacifique, près des côtes chiliennes, au paysage surnaturel de volcans, de montagnes et de glaciers. La Cordillère des Songes. Chouette documentaire. Faudrait essayer de le choper. Il sortira en DVD. On le verra aussi probablement sur des chaînes telles que la 5 ou la 7, je suppose, tôt ou tard. Et puis, alors là, c'est... Oh, je l'ai quand même mis de côté. C'est une comédie, c'est de l'épouvante, c'est de l'action, c'est américain. Et ça s'appelle « Retour à Zombieland ». Alors, quand on voit « Retour » dans un titre, c'est qu'on imagine qu'il y en a eu un autre avant. Eh oui, puisque c'est un retour. Eh bien oui, effectivement, en 2009, il y a eu « Bienvenue à Zombieland ». Avec les mêmes acteurs d'ailleurs, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. avec une nomination au Festival international du film d'horreur de Sainte-Maxime en 2009. Il y avait eu quand même, il y avait eu énormément de spectateurs, ça a très bien marché, et ça a rapporté dans le monde 100 millions de dollars, alors que le budget était de 26 millions de dollars. Donc, en mettant cet argent de côté, ils ont pu sortir Retour à Zombieland. Alors, il y a un avertissement. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité, des spectateurs. Donc ça, c'est à, quand même, hein, faut faire attention à ça. Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison-Blanche jusqu'aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs, puisque c'était toujours les mêmes, hein, c'est ceux qui étaient dans Bienvenue à Zombieland, nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en 10 ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette famille improvisée qui restent les plus difficiles à gérer. Donc c'est un film de Ruben Fleischer, qui est un réalisateur-producteur américain de 44 ans. Voilà, qui est... Bon, lui, il est excellent dans le genre. Donc le film est excellent dans le genre, en fait. Hein. Alors on prend les mêmes, hein, j'ai bien dit, dans les mêmes rôles. Woody Harrelson, qui est quand même un grand comédien, un grand acteur qu'on aime beaucoup quand même. Hein. Emma Stone, et oui, on la connaît aussi. Abigail Breslin, Jesse Eisenberg. Alors ça, ce sont... Les quatre tueurs, voilà. Ben oui, c'est ça quand même. Hein. Mais ils sont tueurs plutôt pour le bien quand même. Hein. C'est pas des affreux. Mais bon, ils n'ont pas trop le choix non plus. Et c'est très prisé en fait. Hein, ces films, ça a très bien marché. Zombieland, Retour à Zombieland, je pense que ça marchera bien aussi. Mais ça a été très vu quand même. Hein, très... C'est pour ça que je voulais le mettre de côté. Je me disais quand même, mince. Alors, je ne sais pas si on avait quelque chose. Non, peut-être pas, si.
On a une bande-annonce.
Oh, merci Damien. Avoir en VO aussi, hein, c'est mieux quand même. Hein. Ça déménage.
Oh. Wow, y a un problème ?
Ça me fait bizarre de te voir dans cette chaise.
Je crois que j'aurais fait un sacré bon président.
Enfin, un peu de classe et de dignité à la Maison Blanche.
Bienvenue aux États-Unis.
Bienvenue à Zombieland. La vie, c'est plus qu'une question de survie. On formait une famille. Une famille dysfonctionnelle, mais quelle famille ne l'est pas?
Joyeux Noël! Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma petite fille?
Ce qui me ferait plaisir, c'est que t'arrêtes de m'appeler ma petite fille.
Bon, moi je vais vous dire ce que je voudrais.
J'en ai rien à foutre de ce que tu veux.
Il était temps qu'on reprenne la route.
Bon! Oh bon sang, je suis désolé. Je m'appelle Columbus.
Madison.
Lui, c'est Tallahassee.
Salut, Paul Blart. Est-ce que c'est ton père? Oups, j'ai oublié la règle de la ceinture.
Ah, comme ça, elle connaît les règles.
Je lui en ai appris quelques-unes, ouais.
73. Il y en a d'autres?
T'es mignonne, c'est trop adorable. Ma sœur est partie. Elle s'est poussée avec un gars de Berkeley.
Berkeley?
Est-ce que t'as du pot sur toi, par hasard?
Attends, est-ce que tu insinues que je suis le genre de gars qui fume du pot?
Je suis désolée.
Boum! Eh ouais!
J'ai rien contre les hippies, j'ai seulement envie de leur éclater la gueule.
Faut aller la chercher, on part à l'aube.
Parle ou t'es mort.
Toi d'abord.
Salut, je m'appelle Tallahassee.
Hé, zombie ! Fais les flamber ! Non ! C'est ma voiture !
Oh, toutes mes excuses, mon petit Elvis.
Est-ce que je rêve ou il ressemble drôlement à...
Toi, je t'aime pas. Du tout.
Vous êtes garé en double fil ? Ou plutôt... En fil perpendiculaire. Vous pourriez avoir une contravention.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Quoi?
Salut tout le monde.
Est-ce que j'hallucine?
Bon. Voilà, là, on est dans un autre univers, oui. Que Shining.
C'est comédie, hein, c'est ce que j'ai dit. La comédie épouvante action. Ouais. Ah oui, c'est de la comédie. Ouais. Bah, Woody Harrelson, il est très fort en comédie, d'ailleurs. Ça dure 1h30. Ah oui, les quatre personnages, c'est Tallahassee, on a entendu hein, les noms. Wichita, Little Rock et Columbus. les quatre héros qui étaient déjà, enfin qui se trouvaient, qui se rencontraient dans Bienvenue à Zombieland. Quoi. Retour à Zombieland. Oh, ben, si vous aimez ce genre, et puis que voilà, que vous avez vu le premier ou pas, d'ailleurs, peu importe, ben, allez-y. Hein. Si vous aimez, allez-y, parce qu'il est bien fait quand même. Hein. Alors, c'est pas de la gnognotte quand même. Hein. Non, non, c'est très très bien fait. Oui. Puis il y a une nomination, ça veut dire que quand même, c'est pas complètement raté. Ben, et voilà, je voulais finir en fait pour les fans d'épouvante, ça continue quand même. Ici, on essaie de, à Radio Entre-Nous, on essaie de parler des films d'épouvante, mais les bons films d'épouvante, parce que on ne peut pas se cacher qu'il y a beaucoup d'amateurs. Hein. Ce sont des films qui sont très vus, enfin les bons films d'épouvante. Sont très voilà, plaisent beaucoup apparemment hein, si on en croit les chiffres des spectateurs, du nombre de spectateurs. Et là, c'est ça s'appelle Nécrologie au pluriel, donc c'est épouvante, fantastique, et c'est français, c'est très rare, il y a très peu de films, de bons films fantastiques épouvante français justement. Alors ils s'y sont mis à 5 hein, parce qu'il y a plusieurs histoires en fait hein. C'est voilà, c'est ça le une nuit, un blogueur féru de films d'horreur, entré par effraction dans un cimetière, est surpris par l'étrange gardien des lieux. Le jeune homme tente alors de gagner du temps en faisant parler ce personnage bourru et éviter ainsi qu'il n'appelle la police. Le gardien ouvre alors son poussiéreux livre des tombes et lui conte le destin des plus angoissants cadavres qu'il ait côtoyés. Des histoires macabres peuplées de créatures malveillantes et de faits surnaturels vont les conduire jusqu'au bout de cette nuit d'horreur. Voilà pourquoi ils sont plusieurs, ils sont 5. Il y a Fabien Chombard, c'est un acteur, compositeur, producteur français. On a Guillaume Defarre, qui est un producteur, réalisateur, scénariste français. On a Nathalie Époque, qui est une productrice, réalisatrice, scénariste française. On a François Message, producteur, réalisateur, scénariste français. Et Alexis Vaverka, qui est un acteur, maquilleur, producteur français. Voilà, ils ont à peu près dans la quarantaine, je pense, à peu près tous, là. 40, 45. Et ce qui veut dire qu'il y a 5 histoires, en fait, hein, puisqu'ils sont 5. Alors, dans le rôle du gardien du cimetière, on a quand même un grand comédien qui est très, tout à fait, il fiche un peu la pétoche, là. C'est Jean-Claude Dreyfus qui a le rôle. Ensuite, on a David Faure. Ben, David Faure, c'est l'homme, c'est celui, le jeune homme qui est entré dans le cimetière en douce. On a Sophie Jarmouni, Linnea Quigley. Alors, Linnea Quigley, c'est une actrice américaine dans le film, là. Voilà. Nécrologie, 1h16. Ah, pour les fans. De toute façon, tôt ou tard, à mon avis, il passera sur des chaînes. Parce que quand il y a plusieurs histoires comme ça, ça passe très bien, ça, sur des chaînes cinéma. C'est toujours assez intéressant. Jean-Claude Dreyfus, en tout cas, un gardien de cimetière, il fiche la trouille. Hein. Carrément. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties au cinéma.
Il y a un peu de tout. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Là, c'est assez varié quand
ouais,
même.
Oui, tout à fait. Et on se retrouve en direct et en public ce dimanche du côté de la Foire Expo de la Réole sur le stand de Radio Entre-Mer pour une émission autour du cinéma avec donc Anne et
des ses
amis,
invités.
Et des amis. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer durant tout le week-end, 1er, 2 et 3 à la Réole sur le stand de Radio Entre-Mer. Et dimanche, vous pourrez également rencontrer Anne donc à midi.
Midi, entre midi et 12h et 13h. Entre voilà. Midi et 13h. Voilà.
Merci bien et à très vite. Alors.
Merci à toi, Damien, en tout cas, pour tes bandes annonces et tout et tout. Et puis, merci à vous, mes chéris, de nous avoir reçus chez vous. En attendant, quand même, en attendant le dimanche, la foire, vous allez pouvoir faire les fous là, sur les manèges et manger plein de choses. Là. Des petites choses qu'on digère très mal d'ailleurs, mais qui sont bonnes sur le coup. Et bien, en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les cinémas de proximité, quand vous le pouvez. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence. Thank you.
bons yeux, tu sais.